Collision. Encore aujourd'hui, et bien que 13 ans aient passé depuis que le hasard a décidé qu'il serait le dernier homme à serrer la main inerte de ma mère dans ses derniers instants de semi-conscience, et que lui, un parfait inconnu, serait le dernier à lui parler et à lui glisser un linge sous la tête en lui caressant le visage, Jean-Luc n'en revient toujours pas que le destin ait mystérieusement propulsé la moto contre cette dame qui pédalait 3 mètres devant lui. Parce que, d'après son estimation, ça s'est joué à 1 milliseconde. C'était elle ou moi qui se la prenait, cette conne de moto. À l'époque, Jean-Luc était professeur de PS. Cet après-midi de juin, il revenait à vélo de son lycée, suivant son parcours habituel, quand il s'est engagé dans la petite rue Romarin, juste derrière ma mère, et que la moto l'a frôlé. Peut-être que sa carrure et sa taille plus imposante auraient mieux résisté au choc. Et peut-être est-ce ce qu'il a en tête lorsqu'il relate aujourd'hui que c'était elle ou moi, en ayant presque l'air de s'excuser, et en ravalant un sanglot. Et pourtant, de tous les témoignages recueillis par la police, le plus glaçant reste celui d'un autre homme qui, lui, n'a rien vu. Ou plutôt, qui a choisi de ne pas voir. Romain se trouvait quelques mètres plus bas. Il marchait dans la rue au bras de sa petite amie quand la moto les a dépassés. Le procès-verbal de sa déposition tient en une ligne. Il a vu une moto remonter à vive allure sur une seule roue. Il a détourné la tête, puis il a entendu un gros bruit de choc. Autrement dit, Romain a regardé ailleurs lorsqu'il a compris que la collision était inévitable. Le détournement comme réflexe d'autopréservation. Au moment de l'impact, le temps se fige quelques secondes sur ce petit segment commerçant de la rue Romarin. Ma mère est à terre, le vélo encore entre les jambes. Le choc a éjecté le motard qui a roulé sur le trottoir pour finir allongé contre un mur. Il tente de se relever pour s'éloigner, mais une douleur à la jambe le cloue au sol. Son tibia est fracturé. Un passant accourt et lui verse une bouteille d'eau sur le visage. La KTM 654 a glissé sur la route, creusant ses sillons dans le bitume pour finir contre un poteau anti-stationnement. La carcasse repose sur un tapis de débris de carrosserie. Un garde-boue en tôle froissée et un rétroviseur ont été propulsés quelques mètres plus loin. L'une des roues tourne encore quelques instants dans le vide, avant de s'arrêter. Dans ce genre de tragédie, il y a autant de versions que de témoins. Certains ont vu la moto blanche, d'autres noire. Quelques-uns jurent avoir vu un passager à l'arrière. À moins que ça n'ait été un scooter. Non, c'était une moto. Une motocross, reconnaît une majorité. Mais les passants de la rue Romarin s'accordent sur un élément. Le bruit. Un grand choc. Un bruit de carrosserie. Un boom. Trahissant l'impuissance du vocabulaire à décrire ce fracas de métal reconnaissable entre tous. Le procès-verbal du brigadier, qui a visionné le CD des images des caméras de vidéosurveillance, on ne disait pas encore vidéoprotection à l'époque, fera autorité. Il s'agissait bien d'un homme seul au guidon d'une moto de type cross de couleur blanche, vêtu d'un pantalon sombre et d'un haut rayé horizontalement de violet, de noir et de blanc. Les caméras qui vidéosurveillent la rue établissent « à 17h13min3s, constatons l'arrivée à vive allure par son arrière d'une moto de type cross de couleur blanche montée par un individu casqué de blanc. La moto semble arriver légèrement sur l'arrière droit du vélo, tentant alors de l'éviter par la gauche en manœuvrant dans cette direction. L'arrière de la moto part de travers à droite et la moto heurte violemment avec son côté droit le dos de la cycliste ainsi que le vélo. Et de conclure, constatons que le motard tente de se relever en se mettant sur ses jambes, puis la caméra pivote, ne permettant plus de filmer le reste de la scène. Le reste de la scène. Le reste de la scène sera précisément le cœur de l'enquête de police. Car après l'impact, la collision manque de dégénérer en bagarre de rue. Lionel est assis à la caisse de son sex shop quand le choc l'a sorti de sa torpeur. Spécialisé dans la vente d'accessoires gays, son commerce, devenu une référence dans le milieu BDSM lyonnais, donne sur le lieu exact de l'accident. Lionel se précipite à l'extérieur et découvre Saïd, allongé sur l'étroit trottoir, qui hurle de douleur devant sa vitrine. Il s'accroupit et tente de parler aux blessés. C'est alors qu'une dizaine de jeunes hommes accourent sur les lieux. Ce sont des amis de Saïd, qui se tenaient devant les kebabs de la place des terreaux quand ils ont vu leur copain passer à plein gaz, le guidon cabré en pur sang. Il vide un présentoir de magazine et glisse un tas de revues sous sa tête, en guise de coussin, tandis que d'autres passants sont accroupis auprès de ma mère. Elle a les yeux ouverts mais son regard n'est plus là. Certains tentent de lui parler. Jean-Luc, le prof de PS, lui tient la main. Une jeune fille est en état de choc, tétanisée par l'effroi. Les premiers coups de téléphone au secours sont passés. Jean-Luc racontera plus tard qu'il a créé, à ce moment-là, une espèce de bulle autour de ma mère et lui, où seuls eux deux existaient. On dit souvent que les premiers réflexes, lors d'une circonstance exceptionnelle, révèlent la nature profonde d'un individu. Je ne sais pas si c'est vrai, toujours est-il que les sirènes de police approchant, une étrange priorité va animer les amis de Saïd. Dissimuler la moto. Deux de ses amis d'enfance sont à la manœuvre. Ils s'appellent Youssef et Hamza. Comprenant que l'arrivée de la police est imminente, Hamza s'avance vers la moto et redresse l'engin sur ses roues. Profitant de la confusion qui règne, Youssef l'enfourche et tente de la faire démarrer à coups de kick. Lionel, le gérant du sex shop, se précipite sur lui, aidé d'un passant. « Attendez, touchez pas à la moto, il faut attendre que les flics arrivent !» Un commerçant de la rue qui connaît la bande murmure « Laisse tomber, vous allez vous faire descendre !» Hamza bloque Lionel d'un « T'inquiète, t'inquiète !» puis menace tout le monde. « Dégagez, bande de fils de pute, dégagez !» Youssef s'acharne à actionner la pédale. Lionel agrippe son t-shirt pour l'empêcher de fuir, quand soudain le groupe bondit pour le faire reculer. « Hé, tu fais quoi là ?» Lionel a organisé des dizaines de soirées où les substances font vriller les esprits. Désamorcer les tensions, il sait faire. Pas cette fois. Malgré sa corpulence, il doit reculer, et s'enferme dans sa boutique pour éviter les coups. Dehors, Youssef parvient à démarrer la moto. Elle vrombit à nouveau, devant des passants sidérés. Un troisième copain de Saïd saute à l'arrière. Alors que les sirènes des secours retentissent, la moto démarre, remonte la rue à toute vitesse et disparaît dans le labyrinthe de la Croix-Rousse. Dans l'heure qui suit la collision, Saïd est transporté à l'hôpital Édouard Herriot et immédiatement placé en garde à vue par l'officier de nuit, avec droit différé compte tenu des nécessités médicales. Le lendemain de son admission à l'hôpital, la jambe enveloppée d'une attelle en attendant la pose d'un plâtre, Saïd reçoit la visite de deux officiers de police judiciaire. Son avocat, dépêché par sa famille, est assis à ses côtés. Il faut imaginer ce jeune de 18 ans, qui vient de survivre à une chute de moto à 80 km/h, le tibia fracturé, le corps perfusé de morphine et sans doute encore en état de choc. C'est son premier interrogatoire, sa première défense. Et il ment. Hôpital Édouard Herriot, Lyon, 3e. 7 juin 2012. Agent de police judiciaire en résidence à Lyon 1er. Étant à l'hôpital Édouard Herriot, pavillon D7. Agissant conformément aux instructions de notre hiérarchie, poursuivant l'enquête en flagrant délit, vu les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, entendons la personne mise en cause. Sur les faits. Je prends acte du motif de mon interpellation pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule. Je consens à vous relater les faits. Hier, je roulais en scooter à Lyon 1er et j'ai vu un vélo au dernier moment. J'ai essayé de l'esquiver, mais je n'ai pas pu et j'ai fini dans un poteau. Question. Vous pouvez m'en dire plus sur ce scooter? Réponse. Il s'agit d'un scooter de 50 cm3, un stunt, blanc en majorité avec des autocollants noirs sur les côtés. Je l'ai déjà conduit plusieurs fois. Un ami me l'a prêté une vingtaine de minutes avant les faits. Question. Aviez-vous consommé de l'alcool ou des produits stupéfiants avant sa conduite? Réponse. Non, ni l'un ni l'autre. Question. Êtes-vous titulaire du BSR ou d'un permis de conduire? Réponse. Non, je n'ai pas le BSR, mais j'ai le permis B. Je sais que je ne peux pas conduire de cylindrée de 125 cm3. Question. Des témoins affirment qu'il s'agirait d'une motocross et non pas d'un scooter. Que pouvez-vous dire là-dessus? Réponse. Non, il s'agit bien d'un scooter. Mais je précise que les suspensions sont hautes. On peut même descendre un escalier avec. Mais c'est bien un scooter. Question. Ne dites-vous pas qu'il s'agit d'un scooter en règle, car il s'agit en fait d'une motocross non homologuée et donc non autorisée à circuler sur la voie publique. Réponse. Non, c'est bien un scooter. Question. Où étiez-vous placé par rapport au vélo juste avant l'accident? Réponse. Je montais la rue. Je n'ai pas vu le vélo. Puis il a surgi à ma droite. J'ai essayé de l'esquiver en donnant un coup de guidon sur la gauche et en freinant des deux freins. Je l'ai percuté quand même avec ma roue avant sur sa roue arrière, il me semble. J'ai fini ma course sur le côté gauche de la rue, à l'opposé de la victime, dans un petit poteau. Question. Pouvez-vous estimer la vitesse à laquelle vous avez percuté la cycliste? Réponse. Pas plus de 40 km/h. Question. Un témoin déclare vous avoir vu faire un wheeling avec la roue avant, juste avant de percuter la cycliste, de sorte qu'en atterrissant vous avez été surpris par cette cycliste et que cela vous a fait perdre le contrôle de l'engin. Réponse. Non, je n'ai pas fait de levée de roue. Question. Des témoins disent vous avoir vu vous relever et vous asseoir un peu plus loin. Que pouvez-vous dire? Réponse. Non, c'est faux. Je suis resté allongé au même endroit. Je n'arrivais pas à bouger de toute façon. Arrêtons l'audition. L'état de santé du mis en cause nécessitant du repos. Question. Maître, avez-vous des observations? Réponse. Non. Généralement, j'envoie chier les journalistes avec délectation, prévient en souriant le timbre chaleureux d'Alfred Cordier. Surtout ceux qui parasitent les librairies, la pire espèce. Tout le monde écrit quelque chose de nos jours, c'est un peu pénible. Maître Cordier reçoit dans son appartement cabinet au cœur de la presqu'île. Un cabinet qui suggère l'autorité sans ostentation d'un homme entré dans la robe par vocation. Une autorité naturelle, tempérée par un caractère bon vivant. Dans la cheminée de son bureau, des bouteilles d'apérol et de whisky sont planquées, mais visibles. Au mur, des masques africains et des tableaux suggèrent une vie de voyage et de vernissage. Les avocats ont tendance à décorer leur bureau pour en faire une vitrine de leur personnalité. Tout l'inverse des médecins, qui préfèrent s'effacer derrière leur diplôme, s'autorisant à la rigueur quelques photos de famille. « Habituellement, je n'accepte pas », répète-t-il, me tendant un café, « surtout s'il s'agit de quelqu'un qui appartient au camp adverse. » Alfred Cordier fut l'avocat de Saïd dans le procès qu'il opposa au mien. Depuis 25 ans, il défend la famille du jeune homme. Souriant et malicieux, il est ce que la presse lyonnaise appelle un ténor du barreau. En 40 ans de prétoire, Maître Cordier a défendu toutes sortes de dossiers. Des enfants renversés par des chauffards, des flics ripoux, des petits dealers comme des barons régionaux de la drogue, des prélats catholiques tombés dans la tourmente, des assassins et des victimes d'assassins. À Lyon, ils sont une poignée à se partager les grandes affaires du pénal. Alfred Cordier ne l'admettra jamais, mais on peut être certain qu'il aurait rêvé plaider au procès de Klaus Barbie, le dernier cas qui a placé Lyon sur la carte des procès historiques. Quand les grandes audiences font défaut, le pain quotidien du cabinet est assuré par les affaires courantes des jeunes de la Croix-Rousse, dont Alfred Cordier est devenu le défenseur attitré. J'en ai défendu un, puis deux, puis mon nom a circulé. Parmi ces cas désespérés qui échouèrent ici, il y eut Saïd donc. Attention, je n'excuse en rien son comportement. En tant qu'avocat, j'aime dire que je suis à côté d'eux, et pas du côté d'eux. Même ces gamins-là peuvent l'entendre. En acceptant de me recevoir, l'avocat a enfreint son règlement intérieur. Par compassion, dit-il, par curiosité aussi, et par orgueil sans doute, de voir ses connaissances sollicitées. J'avais craint que la mort de ma mère n'ait été évacuée de sa mémoire comme un dossier parmi d'autres. Et pourtant, je me souviens parfaitement de cet accident, révèle-t-il en s'installant à son bureau. J'ai le souvenir très précis de ces deux modes de déplacement. La douceur de l'un prise dans la violence de l'autre, le respect des règles, maté par l'imprudence. Il m'a fallu 10 ans pour écrire à Alfred Cordier. C'est une démarche étrange de s'intéresser au profil du tueur au point de s'asseoir dans le fauteuil qu'il a lui-même occupé lorsqu'il a établi sa stratégie de défense. La logique du fils en deuil voudrait plutôt que je me concentre sur ma mère, que je fasse connaître la femme qu'elle fut, que je parle de la chaleur de son regard, de ses fous rires, de son féminisme décalé, de tout ce qu'elle m'a transmis. La même énergie pourrait être déployée à récolter les détails du quotidien qui la ressusciterait, à retranscrire les dialogues intérieurs que j'établis avec elle, et le détachement avec lequel s'installe le deuil, cet état quotidien qui altère la vie sans rien en changer. J'ai lu le récit d'un homme dont la femme a été tuée au Bataclan. Il raconte comment il continue de vivre, avec son fils malgré la béance. Son point de départ consiste à ne laisser aucune place à l'homme qui a tué sa femme. Il se concentre sur l'absence de la personne qu'il a aimée et s'attarde peu sur les circonstances de sa mort autrement plus dramatiques. L'absence et l'apprentissage de son insupportable colocation est pour lui le seul objet d'étude qui compte. Penser au coupable, lui accorder ne serait-ce qu'une fraction de temps de réflexion, serait une fausse piste qui empêcherait de rendre hommage à la femme qu'il a aimée. J'ai répété la même chose pendant des années. Saïd, j'ignore ce qu'il est devenu. Le verdict, je suis incapable de m'en souvenir. 3 ans de prison, je crois. Quand Alfred Cordier me parle de son ancien client, il renverse la tête en arrière et fixe le plafond à moulure. Saïd, je l'ai connu tout gosse. Il devait avoir 6 ans. À l'adolescence, il s'est mis à traîner avec toute une bande de jeunes qui faisaient des conneries ensemble. Des petites conneries. Il volait, il fumait des pétards, il mettait des points de deal. Dans le quartier, les jeunes faisaient comme à San Francisco. Ils accrochaient des baskets pourries sur des lignes électriques. L'évocation de ces souvenirs le fait sourire. Il y avait même un proc qui habitait dans le quartier et qui prenait des photos. C'était assez... Les mots sont choisis. Je ne dirais pas marrant, mais il y avait une vie de quartier, quoi. Il faisait partie de ces gens de la Croix-Rousse. Saïd, je ne sais rien de lui. J'ai souvent cherché son nom sur Internet sans jamais rien trouver. Ausculter son parcours, j'allais le découvrir. C'était se mettre dans la peau d'un entomologiste qui observe, calepin en main, un coléoptère virevolté dans son bocal et se heurter aux parois dans un bourdonnement stérile et énervé. Une vie où chaque nouveau démarrage allait être gâché par une nouvelle combine, une nouvelle rechute, qui le renverrait éternellement à la case départ. Au fil du temps, le personnage de Saïd a pris plusieurs formes. Je l'ai d'abord détesté, méprisé, puis je n'ai plus du tout pensé à lui, jusqu'à ce que la moindre vue d'un type en jogging ne le ressuscite, faisant osciller ses métamorphoses entre ce qu'il aurait dû rester, une rencontre accidentelle et dramatique dont l'effacement des mémoires était la condition d'une saine reconstruction, ce qu'il aurait pu être, un épouvantail politique, et ce qu'il est devenu, un sujet d'enquête. Il ne fut jamais question pour moi de le contacter. Cela aurait exigé une sagesse et une maîtrise de soi dont peu d'individus sont dotés. De plus, une rencontre aurait risqué de brouiller davantage ma vision des événements et de substituer au besoin de comprendre une forme d'empathie non consentie. Depuis plusieurs mois donc, j'arpente Lyon pour rassembler des fragments épars de la vie de cet anonyme et des bribes de souvenirs disséminés dans les mémoires de ceux qui l'ont connu. Alfred Cordier comprend ma démarche. Pas une seule fois, l'avocat ne me demande pourquoi je m'obstine à vouloir en apprendre davantage sur son client. Il doit savoir que le deuil emprunte parfois des trajectoires en hors-piste. Certains érigent des mausolées, d'autres suivent des psychothérapies ou avalent des antidépresseurs. Il y en a qui changent de vie, fondent une famille ou créent des associations. Dans mon cas, je traverse une situation qu'aucun manuel de développement personnel n'a prévue et qui semble, au premier regard, n'offrir que 2 alternatives. La première consiste à se laisser commander par la rage et à en vouloir à tous les Saïds, à mettre en coupe réglée les quartiers et à jouir silencieusement à la vue de policiers qui menottent, en se disant que ce sera toujours une goutte de justice rendue dans un océan d'anarchie. L'autre alternative, tout aussi radicale, est celle préconisée par Gandhi, qui conseilla un jour à un musulman dont le fils avait été massacré à coups de machette par une foule déchaînée d'hindous, de ne surtout pas se venger, mais d'adopter un enfant au plus vite, en prenant bien soin de choisir un hindou, et surtout pas un musulman. Je ne sais pas si l'homme a obéi à l'injonction du Mahatma, mais on touche là à une grandeur d'âme hors d'atteinte pour les individus ordinaires. Entre ces deux alternatives, il y a un petit interstice, ou si l'on préfère, une ligne de crête sur laquelle on progresse avec précaution. C'est l'écriture. Pour comprendre à défaut de pardonner, et à défaut de comprendre, du moins peindre le tableau le plus juste de ce qui s'est passé, et l'éclairer du mieux que l'on peut pour peut-être vivre en paix. Écrire est aussi un dernier ressort, sans doute illusoire, pour se convaincre que l'on maîtrise le tueur. Car mon deuil n'a pas beaucoup d'intérêt, pas plus qu'un autre. Ce sont ces circonstances qui en ont, et qui rendent sa douleur particulière. Elles encapsulent la petitesse de nos comportements lorsque le drame en commande de plus noble, et les peurs et les fantasmes d'une société dans laquelle deux mondes, que tout oppose, partagent le même espace urbain. Je pense à cette histoire tous les jours depuis 13 ans. Je la trimballe comme un glaive et un bouclier qui me servent à tenir à distance les discours haineux ou complaisants. Personne ne le dit mieux que Cioran. Le maximum de détachement auquel nous puissions prétendre est de nous maintenir dans une position équidistante de la vengeance et du pardon, au centre d'une hargne et d'une générosité pareillement flasque et vide, car destinées à se neutraliser l'une l'autre. À l'intranquillité de cette position s'ajoute l'intuition que ce deuil est à haute inflammabilité politique. Là où la colère constituerait une fuite confortable, il y a presque une responsabilité collective à faire quelque chose de cette histoire, ne serait-ce que pour donner tort à une époque empoisonnée par le ressentiment et les regards en coin. Un dérivé de ce que les Juifs appellent le tikkun olam, la réfection du monde par l'action, à sa microscopique échelle, en partant de soi. Je peux vous parler de Saïd si vous voulez, mais celui que je connaissais le mieux, c'était son frère, Abdel. Vous savez, celui qui s'est fait abattre.